Salut, salut, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans le challenge de la start-up, ok? Et nous, c'est un podcast, un nouveau podcast pour inspirer et surtout répondre à ces questions que la plupart des gens qui veulent créer, gérer et développer leur propre entreprise donc se posent parce que oui, on nous encourage à créer des entreprises, mais c'est pas toujours évident de pouvoir réussir en tant qu'entrepreneur. Les différentes directeurs de filiales, coachs et entrepreneurs de HNC Group, nous sommes à votre disposition chaque semaine. Hein, on va se retrouver. Et aujourd'hui, pour commencer, je suis avec Blessing Marie-Béatrice Tailly. Comment tu vas, Blessing?
Très bien, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous, de pouvoir partager cet instant-là où on va discuter sur les challenges et les difficultés que peuvent rencontrer ceux qui décident de se lancer dans l'entrepreneuriat.
À commencer par nous-mêmes, ça y est. Ok,
Voilà.
alors de quoi nous allons parler aujourd'hui, parlant de challenge de start-up?
Ok, nous allons parler des défis auxquels sont confrontés les entrepreneurs. Un peu constaté ces derniers temps que l'entrepreneuriat est devenu un peu comme un esprit de mode.
Ouais.
Tout le monde veut devenir entrepreneur.
C'est clair.
Mais après constat, j'ose dire que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Donc, Herman, toi, en tant qu'entrepreneur depuis plus de 15 ans, selon toi, qui devient entrepreneur?
Alors, je suis peut-être pas d'accord pour dire que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Oui, c'est fait pour tout le monde. Le bonheur est fait pour tout le monde, réussir est fait pour tout le monde. Mais la plupart des gens, effectivement, ne se donnent pas les moyens de réussir en tant qu'entrepreneur. C'est peut-être à ce niveau que le gros défi se pose. Oui, c'est bon de créer sa propre entreprise, mais c'est le plus important, c'est de savoir que, ben, tiens, on va atteindre ses objectifs en créant son entreprise. Il n'est pas question de dire, OK, je suis mon propre patron parce que je suis mon propre patron. Je me suis lancé parce que je me suis lancé. J'ai sorti tout à l'heure sur LinkedIn avec un brillant entrepreneur, il a 21 ans, il a de très beaux rêves, il veut faire, il veut faire 81 millions de chiffres d'affaires par an, il m'a parlé de son système, etc. Je suis super impressionné par ce qu'il fait. Par contre, j'avais envie de lui dire, ben, on dirait que tu t'amuses. Parce
Pourquoi?
que ce qu'il fait, ça n'a ni tête ni queue. Ce qu'il fait, ça n'a ni tête ni queue. C'est un peu méchant de ma part de le dire comme ça. Parce qu'effectivement, on veut bien entreprendre, mais on ne sait pas ce que ça vaut. Il y a quelque chose de très important qu'on appelle la proposition de valeur en business. Beaucoup de gens qui ont leur propre entreprise et tu leur demandes qu'est-ce que tu vends? Ils disent que, il va te dire par exemple que lui, il offre multi-service, il est dans le marketing digital, qu'il est dans
La
la
communication.
communication, qu'il apporte des services aux PME, etc. D'accord. Qu'est-ce que tu vends? Et il est incapable de me dire qu'est-ce qu'il vend. Donc du coup, il n'a pas une proposition de valeur réelle. Et cette proposition de valeur, je peux me tromper, mais elle est déterminante. C'est-à-dire que quand moi je rencontre quelqu'un, à la dernière fois j'étais à Douala et j'ai participé à une réunion d'une association. Un ami voulait me présenter à des amis entrepreneurs parce qu'il savait que voilà, notre entreprise pouvait les aider. C'est des gens qui pour la plupart font 2 milliards de chiffres d'affaires. Et quand j'ai serré la main à la première personne, il me dit, mais alors qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je dis, j'aide les gens qui ont déjà réussi à réussir en faisant moins d'efforts. Donc, j'aide les gens qui ont déjà réussi à réussir davantage en faisant moins
Moi,
d'efforts. J'ai déjà aidé une personne qui faisait un chiffre d'affaires de 2 milliards à faire un chiffre d'affaires de 3,5 millions en l'espace de 1 an. Donc, ils ont dit, ah d'accord, on a besoin de toi. Et comment ça se passe? Donc, tu vois, on appelle ça proposition de valeur. Donc, il y a beaucoup de gens, donc, du coup, qui vont aller vendre. Il crée une entreprise et il n'a pas cette proposition de valeur. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le modèle économique. C'est-à-dire, comment tu vas gagner de l'argent? La question, elle est simple. Comment tu vas faire pour pouvoir gagner de l'argent? Donc, et ensuite, il faut savoir gérer ses émotions, gérer les moments difficiles, être mentalement fort, s'organiser, être physiquement au point, mettre de l'ordre dans sa famille, savoir bien gérer son argent, connaître la fiscalité dans son pays. Connaître le droit, le marketing, savoir gérer les collaborateurs. Donc, ça fait beaucoup de choses. Et la plupart des gens, parce qu'ils sont seulement inspirés, parce qu'ils disent, oh yeah, telle chose, je peux le faire. Ah tiens, on fait ça sur. Il y a des gens qui vont mettre ça sur Internet, ils sont spécialistes en crypto-monnaie. Tu vois, ils ont cryptocurrency ou bien Bitcoin, parce que c'est la mode en fait. Alors, j'aime bien ça. Et je dis bravo, c'est toujours bon d'avoir de l'inspiration. Le fait que les gens aient de l'inspiration, qu'ils aient envie de faire les choses, Il n'y a pas de challenge par rapport à ça. Mais après, à la fin de la journée, il faut que dire, OK, quelle est ma proposition de valeur? Donc, c'est-à-dire que quel est le besoin critique que les gens ont pour lequel ils sont prêts à payer de l'argent s'ils ont une solution et pour lequel moi, j'apporte une solution réelle. Et que tout de suite, qu'elle me dit, est-ce que tu as la solution? Je dis, oui, je l'apporte la solution. Donc, du coup, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, du coup, si tu n'as pas de proposition de valeur, ça ne marche pas. Ensuite, il faut avoir un modèle économique, ça va. OK, comment l'argent rentre? Comment je m'assure de ce que l'argent va rentrer? Et comment je m'assure de ce que... Voilà, d'accord, je gagne plus que ce que je vais gagner si je travaille pour une autre personne. Parce que c'est bien de dire, bon voilà, j'ai créé ma propre entreprise, c'est vrai que je ne gagne pas autant que ce que j'aurais gagné si je travaille pour une autre personne. Ah non, c'est pas ça. Hein. Il faut s'assurer de ce que le business est rentable. Parce qu'à la fin de la journée, si ton entreprise, même si tu l'aimes, et qu'elle n'est pas rentable, tu n'as pas une entreprise, tu es en train de t'amuser.
C'est vraiment intéressant. Mais comment toi, Herman, tu as pu arriver à faire une bonne proposition de valeur?
En commettant des erreurs. Donc, alors, moi, je dirais surtout aux gens, si vous avez la chance d'avoir votre père qui peut payer votre loyer, qui est votre mère qui peut vous donner de l'argent pour faire le transport, un oncle qui peut vous donner de l'argent de temps en temps pour acheter de la connexion Internet, un peu d'économie pour pouvoir louer un espace de coworking ou bien un bureau, créez votre propre entreprise. Parce que la bonne nouvelle, lorsqu'on n'a pas de charge personnelle, dans sa vie personnelle, c'est qu'on peut se tuer pour son business. Et même si ça ne donne pas pour l'instant, on peut se battre. Mais pendant que vous battez, battez-vous à 100%. Donc, il ne s'agit pas tout simplement de le faire un pied dedans, un pied dehors, passer trop de temps avec les amis. Donc, ensuite, il faut travailler sur la bonne chose. Ce que j'appelle la bonne chose, c'est-à-dire quelque chose qui intéresse vraiment les gens. Okay. C'est bon d'avoir des likes sur Facebook pour ce que je fais, mais à la fin de la journée, qui like ce que je fais? Et qui ça intéresse. Donc, il faut que je me pose des questions. Donc, passer du temps sur son business. C'est toujours bon de créer sa propre entreprise quand on est jeune. Donc, moi, j'ai eu la chance, avec mes amis et camarades, on a créé notre... Moi, au moment où on lançait des HNC Group, je crois, on était à Dakar. Moi, j'étais en troisième année d'université. Donc, il n'y avait rien à perdre. L'État payait ma bourse. Donc, j'avais de l'argent qui rentrait chaque mois. Donc, je pouvais me permettre de commettre des erreurs, de m'amuser, comme je disais. Je me suis bien amusé et je me suis bien cassé la figure. Et j'ai appris vite. La bonne nouvelle, c'est que dans mon cas, je lisais beaucoup. J'apprenais beaucoup des gens qui ont déjà réussi. Et je pouvais savoir comment est-ce que ça marche. Parce que, voilà, il y a autre chose. Tu vois, tu veux, par exemple, lancer un business dans le marketing digital. Parce que tout le monde parle de ça maintenant. Donc, tu vas faire du digital, qu'on appelle ça, du digital management pour quelqu'un, du content management. D'accord, OK. Qui est intéressé par ça? De quoi a-t-ils besoin? Qu'est-ce que j'apporte comme valeur ajoutée qu'ils n'ont pas? Donc, voilà des choses que moi, je ne maîtrisais pas. Par exemple, je voulais faire de la formation et du coaching. Et puis, parfois, je vais rencontrer des entrepreneurs, ils me regardent, ils me disent, bon, OK, le gars, il m'apporte quoi? Donc, quand les gens que tu as en face de toi ne voient pas clairement ce que tu vas leur apporter et que toi-même, tu ne sais même pas ce que tu vas leur apporter, donc il va de soi que ça ne marche pas. Donc, pendant un an, deux ans, trois ans, je dirais même, je faisais de très bonnes choses, mais pas des choses qui intéressaient vraiment les gens parce qu'il n'y a pas quelque chose que je leur apportais qu'ils n'avaient pas. Donc, quand tu n'apportes pas aux gens ce qu'ils n'avaient pas, eh bien, il y a de la difficulté. Maintenant, ayant commis des erreurs moi-même, ayant perdu du temps pendant trois ans moi-même, j'ai vu qu'est-ce qui me manquait, qu'est-ce qui faisait que je ne décollais pas. Et j'ai vu que finalement, beaucoup de gens ne décollaient pas à cause de ça. J'ai transformé ça maintenant en information que je ne commence pas à partager avec d'autres personnes. Et là, ils ont commencé à se retrouver dans ce qui se faisait. Parce que la valeur ajoutée est très importante. On est entrepreneur parce que les gens manquent de quelque chose que je veux leur apporter. Bon, s'il n'y a pas de valeur ajoutée réelle pour les gens, ils ne payeront pas pour ça. Et s'ils ne payent pas pour ça, tu n'auras pas de l'argent. Effectivement, non. J'avais l'autorisation et la possibilité de commettre des erreurs. Par contre, si vous avez 38 ans et que vous lancez votre propre entreprise, vous n'avez pas droit à l'erreur. Donc aujourd'hui, je n'ai plus droit à l'erreur. Donc je suis obligé de me battre pour réussir. Bon, ce n'est pas dimanche tous les jours. Ah, comme on dit chez les anglo-saxons, c'est un Christmas every day, but you know. Mais on prend du plaisir et puis on gagne de l'argent, c'est ça qui est la bonne chose. Donc quand tu arrives à gagner de l'argent, c'est intéressant. Mais dans mon cas, effectivement, comme tu as posé la question, c'est que j'ai dû commettre beaucoup d'erreurs et j'ai appris vite. Il faut commettre des erreurs, mais il faut apprendre vite. Et là, je peux dire quelque chose de très important. Se former. Je ne sais pas combien de livres j'ai dû lire pour pouvoir comprendre comment marche un business. Ça, c'est quoi? 600 livres hein, pour comprendre comment marche le business. Donc, allez à la formation. Il ne s'agit pas de penser qu'on connaît. Alors, tu vois, l'une des erreurs que les gens commettent, c'est que parce qu'ils sont un excellent ingénieur, ils se disent que, ben voilà, ils maîtrisent l'entreprise. Non, 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 non. parce qu'ils ont été le chargé marketing, chargé de publicité dans leur entreprise. Chez MTN, chez Etisalat, Move, dans de grosses banques, ils disent, OK, je suis intelligent, je me connais, je sais comment marche une entreprise. Non, tu ne sais pas comment marche une entreprise. Tu sais comment le marketing d'une grande boîte marche, mais tu ne sais pas, tu vas avoir une petite et moyenne entreprise et tu ne sais pas comment le marketing d'une petite et moyenne entreprise marche. Il faudra que tu te remettes à l'école pour voir comment ça marche. Mm-hmm. Ensuite, avant, quelqu'un payait ton salaire. Donc quelqu'un assurait, payait l'assurance maladie et toutes ces choses là pour toi. Et là maintenant tu vas te voir le faire pour toi-même pour commencer et le faire pour d'autres personnes. Mm-hmm. Avant tu ne te préoccupais pas de la relation avec les fournisseurs, tu ne te préoccupais pas de la relation avec le banquier, tu ne te préoccupais pas de la relation avec les collaborateurs quand ils pleurent, quand ils sont pas contents, quand ils font mal le travail, c'est ça. Tu ne te préoccupais pas de ça. Mais là maintenant tu vas devoir t'en préoccuper. Donc c'est pas la même chose que ce que tu faisais au moment où tu travaillais pour une boîte. Ouais, il faut apprendre à le faire. Moi, je dis toujours aux gens, quand vous voulez créer une entreprise là, au 21e siècle, et que vous souhaitez investir 10 millions dans l'entreprise, prenez 5 millions, 3 millions pour faire une étude de marché, et 2 millions pour suivre un programme de formation et de coaching. Systématiquement. Parce que la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, non, je vais piquer, je vais faire 3 millions pour pouvoir faire une étude de marché. Ah non, je ne vais jamais le faire. Je sais que le marché est là, et le marché existe, je le sais très bien. Ouais, le marché existe, mais attends, il faut le quantifier, il faut le qualifier, il faut le calibrer, il faut savoir comment l'attaquer. Donc, on n'attaque pas les marchés de la même manière. Donc, absolument faire une étude de marché. Mm-hmm. Ne jamais supposer que, voilà, tu vois, Blessing, on est là au Ghana, et toi et moi, on va lancer une boîte ici, on est là-dessus, depuis septembre, on fait de très grandes choses, c'est bien, les gens ne commençaient pas à apprécier. Mais nous avons vu qu'il fallait upgrader un peu la valeur. Mm-hmm. Et c'est en upgradant la valeur qu'on a commencé à avoir de retours et de bons feedbacks. Mm-hmm. Alors, on s'est cassé la gueule pendant un bout de temps. Mais il faut savoir exactement de quoi les gens ont besoin. Et se dire, ben, tiens, oui, il faut que je connaisse le marché. Donc, on a pris tout ce temps pour connaître le marché. Et quand tu ne connais pas le marché, tu ne sais pas comment les gens réagissent. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils consomment. Tu fais les choses à ta façon. Mm-hmm. Par exemple, nous, on vient d'un monde francophone et dans un monde anglophone. Et donc, on sait ce qui est bon pour les gens francophones, mais on ne sait pas ce qui est bon pour les anglophones. On sait ce qui est bon peut-être pour les Américains, mais on ne sait pas ce qui est bon pour les Nigériens, les Ghanéens. Donc, il faut adapter ça. C'est comme lorsqu'on a lancé notre boîte au Cameroun. On s'est dit, c'est un pays francophone. Mais le Cameroun a ses réalités. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que l'une des choses qui nous a permis de réussir là-bas, c'est qu'on a deux ou trois personnes qui nous recommandaient des clients.
Okay.
Et qui aimait ce que nous faisons et qui savait en parler de manière simple. Okay. Je peux te dire qu'il y a un monsieur, je préfère parler de lui, il s'appelle Hervé Foucault. Beaucoup de Camerounais le connaissent certainement. Quelqu'un de très généreux. Je peux te dire, il a été pour 30% de notre chiffre d'affaires.
Wow.
Juste en nous, il aimait ce qu'on faisait et il avait de la passion, de la joie de nous recommander à des gens. Donc on appelle ça un facteur déterminant. Donc ces éléments-là, je ne suis pas sûr que le succès qu'on a connu au Cameroun, on aurait pu le connaître sans lui et sans sa petite chose-là. Après, il y a le système HEC, la façon dont on envoie les offres aux gens, la qualité des offres. Donc, effectivement, ça, c'est sûr qu'il y a des choses qui marchent partout, mais il y a des spécificités liées à un marché. Donc, ne pas trop se dire, ouais, je peux. Il y a un jeune qui est venu, pas un jeune, il avait 33 ans, je pense, pratiquement le même âge que moi. Il est venu au bureau, il m'a dit que son entreprise, c'est bien, que là, il a démissionné pour s'en occuper à 100%. Et qui veut que ça marche, etc. Il dit, d'accord, ok, mais pourquoi tu es passé me voir? Il dit, non, on m'a dit que vraiment, si mon business doit marcher, il faut que j'aille te voir, que tu t'y connais, que tu pourras m'aider. Il dit, ok, good, qu'est-ce que tu veux? Un mentorat? On se voit de temps en temps? Il dit, non, je veux un bon programme de coaching. Il dit, ok, good. Je n'ai pas du programme de coaching, je lui ai dit, ça fait 3,6 millions. Donc, pour lui, c'est que moi, je vais l'escroquer, quoi. Donc, il ne veut pas mettre 3,6 millions pour pouvoir se faire coacher. Ce n'est pas grave. Il va investir 10 millions et il va payer ça. Donc, ça, ce n'est pas de ma faute. Donc, à quelque part, il faut de l'humilité pour entreprendre. C'est ça le challenge. Moi, je suis prêt à marcher. Je suis prêt à prendre un trop. Bon, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Prendre les sacs au dos, retrousser les manches. Voilà, enregistrer un podcast dans n'importe quelle situation et condition. Donc, parce qu'on fout un petit peu. Il faut de l'humilité pour ça. Et on n'a pas toute cette humilité. Nous, il faut être street smart pour pouvoir être un bon entrepreneur. Ce qu'on appelle street smart, c'est-à-dire l'intelligence de rue, l'intelligence pratique. qui n'a rien à voir avec le school smart, c'est-à-dire l'intelligence conceptuelle de l'école, ce qu'on a appris dans les écoles de management. Ça n'a rien à voir avec le fait de créer et gérer sa propre boîte et réussir. Ça n'a absolument rien à voir. C'est toute une autre philosophie, un autre mode de vie. Et il faudra faire l'immersion là-dedans et se faire connaître et connaître, se connaître soi-même et savoir quels sont les facteurs clés de succès avant de pouvoir se lancer. Sinon, on va avoir de l'enthousiasme, on va aller droit au but, on se casse la figure.
Wow.
Et tu sais que par exemple, si on devait faire les choses telles qu'on devait faire, on serait en train de gaspiller déjà 1000 dollars dans un bureau.
C'est clair.
Et donc, tu vois, 1000 dollars sur 6 mois, donc tu vois ce que ça aurait donné.
Ouais.
Mais il faut connaître le marché, savoir quels sont les facteurs déterminants. La plupart des gens n'ont pas la patience de se demander qu'est-ce que le marché veut, qu'est-ce qu'il faut pour le marché, comment telle chose marche. Ils ne vont pas vers les gens. Les gens qui ont déjà réussi avant eux, ou qui ont déjà fait ce qu'ils ont fait, qui ont peut-être échoué, ils ne vont pas vers eux. Ils écoutent les gens qui disent ouais, c'est bon, j'ai ma propre boîte, tu vas voir. Et puis, l'une chose, ils vont se laisser distraire par les médias internationaux. Les médias internationaux qui voient ce qu'ils font, on les appelle, ils vont à Paris, tu vois, ils participent à des concours de start-up. Et parce qu'ils ont participé à un concours de start-up et que ça a marché, ils disent ouais, j'ai connu du succès. Ils reviennent sur Terre. Ils commencent pas à lancer la boîte. Ils ont parfois même le financement, mais il leur manque le mindset.
Le
comment ça marche. Parce que l'intelligence technique et technologie ne suffit pas à faire marcher un business. C'est tout un état d'esprit et il faut connaître ce qu'on appelle le mode d'emploi. Chaque business dans chaque secteur obéit à ce qu'on appelle un mode d'emploi. Gérer les collaborateurs obéit à un mode d'emploi. J'ai les relations avec les fournisseurs obéir à un mode d'emploi. Il y a des gens qui ne savent même pas devoir à une personne. Tu sais, quand tu es un entrepreneur et que, ah, mais bien sûr, tu as une facture à payer et que quelqu'un t'appelle pour te dire, bah, tiens, hey, c'est comment? Et tu ne sais pas comment répondre. Et tu perds les moyens. Ça s'apprend. Il faut se tonifier déjà. Parce que je mentirais si tu as une personne, bah, tiens, tu ne vas pas rater les factures. Bah, un entrepreneur qui n'a pas de facture à payer, je n'en connais pas. Okay? Voilà. Donc, mais ce sont des choses, il faut se préparer mentalement, il faut du coaching, de l'accompagnement, du mentorat pour ça. Ah, bon, l'autre chose, c'est que la plupart des Américains, hein, ils veulent du mentorat gratuit. Oui, mais bon, je comprends, mais c'est normal. Parce que tout est gratuit sur Internet. Donc, ce podcast, il est gratuit, n'est-ce pas? Donc, on espère que beaucoup de choses vont être gratuites, mais ce n'est pas évident. Donc, il faut avoir de l'humilité. Et de connaître, d'avoir, comme je l'avais dit, une bonne proposition de valeur, savoir qu'est-ce qu'on apporte réellement au marché, quel est le besoin pour lequel on a une solution, et le besoin est tellement critique au point où les gens vont supprimer toutes leurs dépenses pour aller le faire, pour acheter votre produit. Ensuite, il faut avoir un bon modèle économique pour savoir comment on gagne de l'argent, comment je fais pour gagner plus que ce que j'ai gagné au moment où je travaille avec quelqu'un d'autre. C'est vraiment important de se poser cette question-là et de trouver un plan pour que maximum 8 mois, un an après, maximum 2 ans après, on commence effectivement à gagner de l'argent. Parce que quand tu ne gagnes pas de l'argent, ce n'est pas une entreprise, c'est un hobby, comme on dit. Et avoir l'humilité intellectuelle de se dire, ouais, c'est vrai que j'ai été DAF, j'étais directeur technique, j'étais responsable vente, j'étais chef d'atelier, etc. Mais je ne vais rien faire de tout ça, je vais devenir entrepreneur, c'est un autre monde. Avec un autre état d'esprit, avec un autre mode d'emploi. Et naturellement, pour tout secteur dans lequel je veux investir, je veux entreprendre, je dois connaître exactement le mode d'emploi.
Ok. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup sur l'entrepreneuriat et je sais que c'est pareil pour vous. Ce que moi, je voulais ajouter, c'est que Herman a beaucoup insisté sur la formation. Accepter de se faire former, l'humilité, la bonne proposition de valeur.
Exact.
Et je pense que c'est là que nous allons conclure avec notre podcast. Et moi, je suis déjà très excitée de pouvoir revenir et encore parler de l'entrepreneuriat. Prenez soin de vous, à bientôt et que Dieu vous garde.
Voilà, et si vous avez aimé ce podcast, il faut le partager avec d'autres personnes qui veulent entreprendre dans le challenge des startups. Nous allons partager ces expériences-là parce qu'il est temps que non seulement on encourage les gens à créer leur propre entreprise, mais surtout qu'on les aide à savoir eh bien, comment ça marche, quel est le mode d'emploi et quel est l'état d'esprit qu'il faut pour pouvoir réussir en tant qu'entrepreneur. En tout cas, ce fut un bonheur pour nous d'avoir été avec vous. Bonne et heureuse année 2018. Ciao, ciao.